Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a quelques jours seulement de Noël, Franck Ferrand a décidé de nous faire saliver aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ça tombe bien, moi j'ai pas déjeuné. Je sais pas ce qu'il
moi
en est.
Plus. Ben,
vous non plus. Nous allons nous intéresser aux repas de fête et à leurs origines. Réveillon, festin de Noël, les plats spécifiques et régionaux. Il y en aura, vous allez voir, pour tous les goûts. Les pâtisseries de saison au fort goût de cannelle. On parlera d'ailleurs aussi de thé de Noël, de bière de Noël. Comment nos aïeux célébraient-ils cette période de fête de fin d'année et quelles traditions nous ont-ils transmises? Eh bien, ce sont des questions que nous allons nous poser.
Et que vous allez aussi poser à votre invitée, Catherine Khodorowsky.
Eh oui, Catherine Khodorowsky était venue nous parler de chocolat l'autre jour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur le chocolat, bien sûr, mais surtout, nous allons explorer tout le reste, à commencer par le foie gras, dont l'histoire, vous allez le voir, remonte à la plus haute antiquité.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a deux Noëls, celui des chrétiens qui vivent intensément la fête de la nativité, et puis le Noël de tout le monde, si je puis dire, les ponts, les cadeaux, la cannelle et les mandarines, le marché de Noël, les chocolats, les pralines, la trêve des confiseurs, les spectacles pour enfants, les sapins couverts de boules de verre soufflées, les illuminations, les chants naïfs et les réveillons. Depuis quand ces réjouissances profanes ont-elles accompagné la fête religieuse fixée au 25 décembre par le pape Libère au IVe siècle? Eh bien, en vérité, depuis très longtemps. Les anciens, à cette époque de l'année, celle du solstice d'hiver, avaient célébré jadis le culte de Mitra et la fête du soleil invaincu. Depuis, les débordements profanes n'ont jamais vraiment cessé en cette période du creux de l'année. Saint Augustin les a condamnés en vain. Plus tard, Maurice de Sully, vous savez, l'évêque fondateur de Notre-Dame de Paris, se plaindra de la fête des fous, lointaine résurgence des païennes saturnales. C'est toujours la même chose. N'oublions pas par ailleurs qu'une semaine seulement sépare Noël du jour de l'an, en tout cas dans les régions où l'année change au 1er janvier. En France, ce ne sera généralisé que sous Charles IX. Les vieux rites druidiques de la Saint-Sylvestre, avec la bénédiction sous le gui notamment, tout ça n'est jamais très éloigné de la fête de Noël. La coutume du sapin décoré avant d'être illuminé serait vieille de 1400 ans pour sa part et remonterait au Vosgien Saint-Colomban. Elle a été reprise et développée dans les pays germaniques d'où elle gagne progressivement l'est de la France au XVIIe siècle avant de se faire proprement alsacienne, puis de déteindre sur tout le pays via la haute société à l'époque de Louis-Philippe. Faut pas oublier que la belle-fille de Louis-Philippe, Hélène de Mecklembourg, était allemande. Cette pratique du sapin ne va se démocratiser qu'après l'occupation prussienne de 1870. Quant aux cadeaux de Noël, ils sont le détournement tardif et commercial de deux traditions qui voisinent avec Noël dans le calendrier, les cadeaux aux enfants de la Saint-Nicolas dans toutes les régions de l'Est, et puis les étrennes de Nouvel An. La publicité s'est chargée, avec la complicité du Père Noël, de généraliser tout ça. Nous raconterons, si vous voulez, vendredi, en compagnie de Jean-Pierre Guénaud, l'histoire du Père Noël. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, à cette heure où beaucoup d'entre vous sont à table, c'est la pratique des repas de fête, réveillon de la nuit de Noël ou repas festif du lendemain, jour de la nativité. À l'origine, ce réveillon est indissociable évidemment de la messe de minuit. Au Moyen-Âge, on dîne plutôt avant la messe et puis peu à peu, le repas de fête est déplacé après la messe. Rappelez-vous la savoureuse nouvelle des trois messes basses dans les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. En rentrant de l'église avec sa crèche et ce à partir de la Renaissance, la coutume est donc de faire un repas aux bougies ou aux chandelles, pas toujours pantagruélique ce repas d'ailleurs, mais forcément placé au milieu de la nuit, à médianoche comme on disait. On emploie le terme réveillon à partir du règne de François Ier. Pourtant, le mot réveillon, employé pour désigner spécifiquement les repas nocturnes des nuits de Noël et de la Saint-Sylvestre, remonte seulement à Louis XV. Il entre au dictionnaire de l'Académie en 1762. Il faudra attendre encore un bon siècle pour que le verbe réveillonner soit admis. Alors qu'est-ce qu'on dit c'était autrefois lors de ces grands repas de fête, et bien c'est ce que je vous propose de découvrir à présent en compagnie de Catherine Khodorowsky. Elle est en train de préparer son festin de babette à elle.
Un extrait de la bande originale du film Le Festin de Babette. Franck, on se retrouve dans un instant pour évoquer les réveillons d'autrefois.
La Hotte de Noël Europe 1.
Et en attendant le réveillon, Julia, on joue à la Hotte de Noël sur Europe 1.
Eh bien, nous vous proposons de jouer pour gagner un séjour découverte pour deux personnes au Connemara pour découvrir les superbes paysages irlandais pendant une semaine en formule bed and breakfast pour une autre idée du voyage. Ce séjour comprend également la traversée croisière France-Irlande pendant deux nuits avec Brittany Ferries. Valeur du séjour 1000 euros. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe et le prénom Franck CK à la fin par SMS, c'est 3921, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous.
En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et pour évoquer les repas de fête, nous vous retrouvons Franck avec votre invitée sur Europe 1, Catherine Khodorowski, qui est historienne et sociologue de l'alimentation.
Bonjour Catherine Khodorowski.
Bonjour.
Vous êtes dans les plats, vous avez mis les petits plats dans les grands, si je puis dire. Alors aujourd'hui, quand on parle de réveillon de Noël, de repas de Noël, le plat qui s'impose, celui qui saute à l'esprit tout de suite, c'est la dinde, bien entendu. Mais la dinde, c'est un oiseau américain qui n'arrive qu'assez tard sur nos tables européennes.
Ah, tout à fait. En fait, le mot dinde vient de l'Inde.
Comme son nom l'indique, ben oui, voilà.
C'est parce que
c'est l'oiseau qui vient de l'Inde, enfin de ce qu'on croyait être l'Inde.
Absolument. Et en fait, c'est le raccourci de la poule d'Inde.
Voilà.
C'est-à-dire que nos grands navigateurs pensaient, en mettant le pied sur le continent américain, être arrivés en Inde. Donc, quand ils nous ont rapporté plein de choses, on le sait, le cacao, le maïs, la vanille, etc. Mais ils ont appelé ça la poule d'Inde. Nous avons fait le raccourci en l'appelant la dinde.
Alors, avant la dinde, il y a eu l'oie, évidemment, l'oiseau de Noël par excellence. Et il suffit d'aller encore aujourd'hui se promener du côté de la Lorraine et de l'Alsace pour en avoir une démonstration vivante. L'oiseau de la fête, la chair que l'on sert pour les grandes occasions, c'est l'oie au départ.
Alors, c'est l'oie parce que c'est une volaille et on sait que la volaille est vraiment ancrée dans la tradition française, en sachant que la France au départ était agricole. Et la fête, c'est quoi ? À la fête, c'est l'exception. C'est ce qu'on ne mange pas tous les jours. Donc si tous les jours on mange le petit poulet ou la petite pintade, il faut que le jour de fête, cette volaille elle soit plus grosse. Et ça veut dire que c'est l'oie parce que c'est un gros oiseau.
Ah oui, c'est spectaculaire.
Gros oiseau.
On servait du pain aussi au Moyen-Âge, hein, mais pour les grands dîners princiers notamment. Hein, c'était réservé à la table des princes.
Au Moyen-Âge et même à Versailles.
Oui.
On sait qu'au temps de Vatel, on servait un pan avec encore toutes les plumes pour simuler un oiseau presque vivant sur la table, voire parfois même on faisait jaillir quelqu'un du ventre du pan. Hein. Mais c'est pour dire que la fête, c'est l'exception.
Vous êtes venu avec une recette d'oie qui est signée d'un grand personnage historique que nous aimons bien d'ailleurs dans ce studio. Nous invoquons souvent ses mannes. C'est Monsieur de Talleyrand.
Ah ben absolument. Et qui avait pour fin cuisinier Antonin Carême.
Carême, bien sûr.
Et alors, le jour de Noël, il avait l'habitude de servir à ses invités une oie traditionnelle dont il avait lui-même imaginé la recette. Et alors, chaque mot nous fait saliver. Il dit « Foncez une casserole de bandes de lard et de tranches de jambon. Veuillez ajouter quelques oignons piqués de clous de girofle, une gousse d'ail, un peu de thym et de laurier. Et sur un matelas parfumé, posez une oie grassouillette, bien jeune, bien tendre, soigneusement farcie de son foie et de crête de coq. On sait qu'à l'époque, crête et rognon de coq étaient des mets absolument raffinés. Arrosé généreusement de sauterne, quand même, bon goût. Semez une pincée légère de muscade et laissez tomber quelques gouttes d'orange amère. Couvrez enfin de papier beurré et feu dessous, faites partir.
Cette émission est en train de devenir un vrai supplice de tantale.
Ah
en fait.
Oui, nous avons faim.
Je vois Julia se désespérer littéralement. Vous n'allez pas dépérir quand même avant la fin de l'émission.
Je vous soutiens toujours.
Madame de Sévigné, elle, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, nous proposait un repas de réveillon extrêmement fourni. On ne risquait pas de mourir de faim chez elle.
Alors, dans les nuits de Noël de l'an 1677, elle recevait du beau monde dans son merveilleux hôtel Carnavalet. Et elle raconte donc que Coulanges avait mis le feu à la bûche de Noël dans une grande cheminée Henri II, hein, et elle y avait mis un agneau tout entier sur l'immense dressoir qui occupe tout un panneau de la salle. Des orangers encadrent des aiguières et la vaisselle d'argent et de vermeil. Donc c'est pour vous dire le grand luxe.
Oh, oui, magnifique, les réveillons chez Madame de Sévigné, on y court.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 au réveillon d'autrefois et notamment à la belle histoire du foie gras.
Eh oui, parce que quand même, qui dit fête de fin d'année, qui dit repas de Noël, dit généralement maintenant foie gras. Sauf que ce foie gras, on a l'impression que c'est une invention moderne, pas du tout. Vous nous dites, Catherine Khodorowski, c'est très 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 vieux en vérité.
Ah, chez les Égyptiens, 4000 ans avant notre ère. Déjà, on avait compris que ce bel oiseau, avant de voyager et d'aller dans un pays plus chaud, ou quand il arrivait d'un pays froid, eh bien, il faisait ses réserves. Et donc, il s'auto-gavait pour avoir une réserve de graisse.
Donc, les premiers à gaver les oies, ce sont les oies elles-mêmes, en
absolument,
fait.
Absolument, hein. C'est un phénomène naturel. Et les Égyptiens adoraient l'oie. Et d'ailleurs, si vous allez au musée du Louvre, il y a une fresque magnifique où on voit des esclaves hébreux.
C'est un bas-relief, absolument,
absolument.
Hein, et qui est rehaussé de couleurs. Il est en polychromie, comme on dit. C'est magnifique. On voit ces oies qui sont préparées, prêtes à être
gavées par les esclaves hébreux. Et il y a aussi une autre fresque qui montre un enfant égyptien qui tient en laisse une oie. C'est pour dire que c'était un animal domestique. Alors, on le chassait, on s'en régalait, on aimait sa viande. Et nos amis égyptiens qui étaient des fins cuisiniers.
C'est vos amis, hein. Moi je ne sais pas si je les adopte aussi facilement.
Ah, moi je les adopte parce qu'ils aimaient les bonnes choses. Bon. Et ils nous ont quand même transmis en peuple de la Méditerranée énormément de bons ingrédients. Et donc, ils ont remarqué que quand le foie avait été auto-gavé par l'oie, il était encore meilleur. Et ils ont transmis cette tradition aux Grecs qui ont continué à engraisser les oies avec du froment écrasé dans l'eau. Et si vous lisez l'Odyssée d'Homère, on parle de la manière dont les Grecs engraissaient les oies. Les Romains, eux, ont sophistiqué encore un petit peu cette recette.
Oui, comme toujours. Ce que font les Romains, généralement, c'est qu'ils vont chercher dans ce que les grandes civilisations ont fait de mieux. Ils récupèrent les savoir-faire et alors ils les raffinent à l'infini. Il y a un côté sophistication dans la gastronomie romaine.
Absolument. Ça n'a rien à voir avec les Gaulois, si je peux dire. Et alors eux, ils faisaient des boulettes de figues séchées et broyées qu'ils mouillaient pendant 20 jours pour que les boulettes soient quand même assez tendres et pour donc engraisser les oies. Et il y a une recette de Pline l'Ancien, hein, qui dit faire gonfler le foie dans un mélange de lait et de miel pendant une nuit. Et quand vous questionnez aujourd'hui les grands chefs français, ils font exactement ça. C'est-à-dire, on ne cuisine jamais un foie pour le transformer en foie gras sans l'avoir fait reposer une nuit dans du lait ou de l'eau au frais.
Donc ce sont des traditions qui remontent à la nuit des temps, disons-le. Les Romains consommaient beaucoup de foie gras ?
Les Romains en consommaient suffisamment pour que Apicius, dans son livre qui s'appelle De Re Coquinaria, et qui est...
Apicius, c'est le grand gastronome romain. Hein. On disait Lucullus dîne chez Lucullus, et Apicius, c'est le maître de la cuisine romaine.
Ah voilà, et alors il a rédigé à la fin du 4e siècle ce livre de recettes romaines qui est une mine... Pour nos travaux, hein, où il raconte parfaitement la recette du foie gras aux figues. Alors, aujourd'hui encore, quand on veut faire un mélange de saveurs harmonieux entre le salé et le sucré, eh bien on sert un chutney de figues ou une figue confite aux épices et au porto comme
à la table de l'empereur Adrien, finalement.
Absolument, et c'est ce que j'offre aussi le jour du réveillon à ma famille.
C'est comme ça que vous le servez. Alors, en France, le foie gras n'arrive que beaucoup plus tard. Je vais raconter dans un instant la légende de l'invention du foie gras. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça nous arrive par les régions de l'Est, en vérité. Hein.
Alors, ça arrive effectivement Parce que le peuple juif qui ne mange pas de graisse de porc mangeait de la graisse d'oie pour cuisiner. Et donc par l'Alsace, cette tradition va arriver. Le foie gras d'oie aujourd'hui est encore préparé en Alsace, bien qu'en France, on préfère le foie gras de canard. Pour deux raisons. D'abord parce que le canard est beaucoup moins fragile que l'oie et beaucoup moins coûteux aussi.
Oui,
et puis, quand on tue une oie pour son foie, il nous reste la viande. Or, la viande, on ne la mange qu'à Noël. Alors que la viande de canard se mange aujourd'hui en France, dans presque toutes les régions, à l'année.
Mais est-ce que les gastronomes ont une prédilection pour le foie gras d'oie, tout de même? Ou est-ce que les deux se valent?
Écoutez, le goût est subjectif. Je ne me permettrai pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est vraiment une question de culture personnelle. Le goût est très différent. L'oie est plus onctueux peut-être, une pointe plus salée, plus sucrée, excusez-moi, plus doucereux, on va dire comme ça. Voilà, c'est encore plus une tradition en Alsace.
Alors on dit, j'ai entendu dire ça, que lorsque les Prussiens sont arrivés en 70, il y a beaucoup d'Alsaciens qui sont allés s'installer dans le sud-ouest et que ce serait la raison de l'implantation en quelque sorte de toutes ces grandes maisons de foie gras dans le sud-ouest de la France. Est-ce que ça tient à ça? Est-ce qu'on peut dire que ça vient de là?
Alors, ça tient à ça, et ça tient aussi au fait qu'au XVIe siècle, il y a l'arrivée du maïs par Bayonne. Et ce maïs va remplacer le millet dans le gavage des oies. Donc, des oies dans un premier temps, et du canard ensuite. Donc, je pense aussi que cette tradition du foie gras dans le sud-ouest vient par cette arrivée du maïs.
Alors, dans un instant, notre récit va se concentrer sur la grande légende du foie gras.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui revient maintenant sur la légende de l'invention du foie gras.
Eh oui, le cher Gosselin le Nôtre, vous savez, le pape de la petite histoire, s'est penché, il y a une centaine d'années, sur une légende qui attribue l'introduction du foie gras à un brave homme d'Alsacien dénommé Fouche. Ce Fouche était le maître-queue du comte Charles-François de Breuil à Strasbourg. C'est-à-dire que nous sommes là au beau milieu du règne de Louis XV, aux environs de 1750. Et un jour, Fouche est en train de se promener sur les remparts de Strasbourg. Il fait sa petite promenade habituelle de l'après-midi. Et puis, il sent bien que quelqu'un est en train de le suivre. Alors, il se retourne une fois, deux fois. Puis, finalement, l'inconnu, en s'approchant, finit par l'aborder. « N'est-ce point à monsieur Fouche que j'ai l'honneur de parler ?» demande-t-il. « À lui-même. Vous êtes bien, monsieur, le chef des officiers de bouche de monseigneur le comte de Breuil. Oui, oui, c'est bien lui que vous avez sous les yeux. Eh bien, en ce cas, monsieur, je suis chargé pour vous d'une mission délicate et confidentielle. Un seigneur de la ville, qui désire ne pas être nommé, se trouve en ce moment sur le point de mourir. Avant de quitter la vie, il désirerait avoir un entretien secret avec vous et il m'a chargé de vous en avertir. C'est le dernier vœu d'un mourant, monsieur, et j'estime que vous ne refuserez point de exaucé. Alors évidemment, Fouche se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça paraît un peu bizarre. Mais en même temps, l'homme est tellement courtois. En quoi puis-je être utile à ce gentilhomme? Demande-t-il. Ai-je l'honneur d'être connu de lui? Oh, je ne pense pas, monsieur, mais si vous voulez bien vous rendre ce soir, quand la nuit sera tombée, au faubourg de la Krutenau, vous trouverez à l'extrémité de la rue du Renard Prêchant un homme de confiance qui vous introduira auprès de lui et vous n'aurez pas à regretter, j'en suis certain, de vous être fié à ma parole. » Inutile de vous dire, pendant tout ce qui reste de la journée, Fouche se pose des questions, il se demande s'il va y aller. Et à la nuit tombante, il refait une petite promenade et ses pas, presque malgré lui, vont le diriger vers le quartier de la Krutenau. Il arrive à l'entrée de la rue du Renard Prêchant et là, effectivement, il aperçoit le fameux homme qui est là et qui paraît l'attendre. « Veuillez me suivre, monsieur Fouche, » dit-il seulement. On a l'impression d'un roman d'espionnage un peu. Fouche suit donc l'homme jusqu'à une espèce de bâtisse. On traverse une cour, puis deux, des cours avec de hauts murs, c'est assez sombre. Et on entre par un vestibule assez voûté. On entre dans une maison qui n'a pas l'air vraiment très accueillante. « Entrez, entrez, » dit-on. Alors Fouche entre et il finit par se retrouver dans une chambre. Une chambre assez vaste, avec une seule lampe qui éclaire, une lampe, j'imagine la flamme un peu vacillante, évidemment. Et dans le fond, il y a un vieux monsieur qui est couché dans un lit à courtines, grand lit à baldaquin, si vous voulez. L'homme est complètement décharné, il paraît avoir 100 ans. « Approchez, mon enfant, » dit-il de sa voix, du reste de voix, d'un souffle.
Approchez, je veux vous confier avant de mourir un secret épuisant. » Alors Fouché s'approche, il se baisse et voilà ce que lui dit l'homme. « Il y a 60 ans, j'avais votre âge alors. Une femme du Hanau Badois à qui j'avais sauvé la vie m'a donné une recette merveilleuse. C'est grâce à elle que j'ai atteint les limites de la vie humaine. Depuis de longues années, je n'ai pour ainsi dire pris d'autre nourriture que celle-là et je n'ai pas voulu emporter ce secret si utile au bonheur de l'humanité. Seulement, je ne voulais pas le remettre à n'importe qui. Il me fallait un maître en cuisine. Attendez, je vais vous dire. » Alors, le vieillard s'assoupit un moment, tout le monde attend autour du lit. Et puis finalement, le vieillard rattrape la main de Fouché et il lui donne la recette. Il lui apprend comment il est possible de donner aux oies blanches de la plaine du Rhin une maladie qui engraisse démesurément leurs organes intérieurs. Il faut, dit-il, priver ces volailles de toute boisson en leur ingurgitant de force des farines et des pâtes, en leur crevant les yeux, en leur attachant les pattes pour qu'elles ne puissent faire aucun mouvement, en leur coupant même la langue, en les plumant avant de les tuer. C'est une véritable torture qu'on va infliger aux dix volatiles. Étuvez au madère ensuite, une fois que vous aurez le foie, dit le vieux monsieur. Assaisonnez peu, très peu, pas d'autres condiments que des truffes fraîches de Périgueux. Faites l'essai, vous m'en glorifierez, je vous le dis. Cet aliment dont j'ai fait usage presque exclusif pendant de longues années est un élixir de longue vie. Et le brave homme meurt quasiment en prononçant ces dernières paroles et en laissant le secret mystérieux entre les mains de ce pauvre Fouché, qui apprendra le lendemain le nom du mourant. Il s'appelle le baron de Dudweiler. Eh bien, ce baron de Dudweiler vient de donner à Fouché des idées, des idées extraordinaires.
Début de la fête sur Europe 1, extrait de la bande originale du film Vatel.
Alors, ce baron de Dudweiler est mort, mais non pas en emportant son secret, puisqu'il a réussi à le transmettre au cuisinier du comte de Breuil, qui lui-même, étant nommé ambassadeur en Pologne, va emmener avec lui toute sa maison, à commencer par son chef de cuisine, bien entendu. Il emmène Fouché avec lui. Et Fouché va, pendant 2 ans, essayer de perfectionner la technique que lui a transmise, comme ça, un peu à l'article de la mort, ce pauvre baron de Dudweiler. Et puis un jour, l'ambassadeur Breuil fait appeler Fouché. « Monsieur, lui dit-il, je vous ai prévenu que lundi j'ai convié à dîner monsieur l'électeur de Saxe. Ayant à causer avec son Altesse de diverses affaires importantes, nous resterons en tête à tête et je désire que l'électeur soit satisfait de mon hospitalité. Que nous proposez-vous » Alors l'autre lui dit « Il y aura des ailes de Bartavelle à la purée de champignons, il y aura des riz de veau au coulis d'écrevisse, des bécassines au laitue ferme. Oui, tout ça est bien, dit Breuil, mais je voudrais quelque chose de vraiment nouveau. » Ah, alors Fouché se dit que c'est le moment ou jamais de ressortir la vieille recette du père Dudweiler. Et c'est le moment d'essayer son foie gras. Il va le servir, ce pâté de foie gras, comme on disait à l'époque. Il va le servir sur la table de l'électeur. Or, à la surprise générale, le dîner, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le repas de la mi-journée, se prolonge, s'éternise même. Mais que font-ils? Que font-ils? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils dégustent jusqu'à la dernière miette ce pâté de foie gras qui, du coup, va devenir un must. Le comte de Breuil en offrira bientôt à Louis XV, qui ne veut plus lui-même que cela sur ses propres buffets. C'est fait. Grâce à Fouché ou grâce à Dudweiler, le foie gras est entré dans les mœurs de la bonne société française.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous parlons des repas de fête aujourd'hui sur Europe 1, toujours en compagnie de votre invitée Catherine Khodorowsky, Franck.
Catherine Khodorowsky, qui est notamment présidente fondatrice de l'association La Marmite à Malice, qui est un club de gastronomie, de gens qui aiment la gastronomie, mais au sens le plus cultivé du mot, hein, bien entendu. Et alors, pour trouver votre club, il suffit d'aller sur www.marmiteamalice, au pluriel, avec plusieurs malices.com. www.marmiteamalice.com, c'est le site de Catherine Khodorowsky. Alors, nous étions en Alsace pour parler de ce Fouché et de sa réinvention du foie gras, en quelque sorte. On peut dire que l'Alsace, c'est la région par excellence des fêtes de Noël. On voit d'ailleurs quel est le succès de tous les marchés de Noël, hein, de Colmar, de Strasbourg, etc. Catherine Khodorowsky.
Alors oui, parce que comme dans le Nord ou dans l'Est, on commence par célébrer cette fin d'année en pensant à la Saint-Nicolas.
Mais bien sûr.
Et la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, et c'est ce personnage de légende qui vient offrir des cadeaux aux écoliers qui ont été sages. Il arrive avec son âne, avec le père Fouettard. Le père Fouettard, lui, par contre, comme son nom l'indique, est là pour punir ceux qui n'ont pas été sages. Et la légende dit que le petit âne, en arrivant, va laisser ses crottes, hein, comme tout animal. Et ces petites crottes sont à l'origine des crottes en chocolat. C'est ces petites crottes donc que les chocolatiers pâtissiers ont imaginées ensuite par ces petites boules de chocolat. On n'en parle plus beaucoup des crottes en chocolat aujourd'hui. On parle plus des truffes. Hein, voilà.
Alors moi, ce que j'adore sur les marchés de Noël d'Alsace, notamment, c'est le Glühwein, bien sûr, mais ça, on n'a pas le droit d'en parler à ce micro. Je vois Julia
avec
tout
modération.
De suite. Avec modération. Mais c'est tous les petits gâteaux, surtout ces extraordinaires petits gâteaux alsaciens qui sont la grande tradition. Là.
C'est la grande tradition, aux saveurs proches du pain d'épices, originaire aussi de cette région-là. Alors on pense aux étoiles à la cannelle qu'on appelle les bredala, on pense aux stollen, on pense aux beraweka, ce mélange.
Le stollen, c'est cette espèce de gâteau pain avec énormément, il y a des petits raisins secs, il y a du massepain dedans, bien entendu, et puis tout ça avec beaucoup de cannelle, un peu de sucre glace.
Ah oui, c'est une pâte qui est une pâte levée, hein, dans laquelle on va effectivement mettre des raisins secs, un peu de kirsch parce qu'on est en Alsace quand même, des amandes, des écorces d'orange et de citron confites. Voilà, alors c'est absolument délicieux. Et puis le beraweka, ça c'est une merveille. C'est un mélange de fruits secs avec un peu de pâte à pain pour les tenir. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces saveurs de Noël sont très proches. Il y a toujours les épices qu'on va trouver dans le thé de Noël.
Il y a tout ce qui réchauffe quelque part.
Absolument,
hein, c'est ça.
Qui chauffe à l'intérieur. Hein. Et ce sont les mêmes épices et les mêmes saveurs qu'on retrouve à l'année dans le pain d'épices.
Et puis ces odeurs, ces senteurs de cannelle, d'orange bien sûr et de fleurs d'oranger, tout ça fait partie de Noël. Alors pour ne pas ne parler que de l'Alsace, parce qu'on a beaucoup parlé finalement de l'Est aujourd'hui, il y a une autre région où Noël prend des couleurs extraordinaires, c'est la Provence bien entendu, on pense aux Santons et aux magnifiques crèches de Provence.
Alors en Provence, il y a un folklore encore très pressant et fort en émotion. Alors, on commence par exemple le 14 décembre par le blé de la Sainte-Barbe. Hein. Et ce blé, on va le retrouver ensuite dans la fête de Noël. En Provence, on ne fait pas un réveillon. On mange de manière très très légère et on fait ce qu'on appelle le boutacaf. Cachofio, pardon pour mon accent qui n'est pas
provençal. Ça
provençal,
c'est pas dit à la Sagne.
Hein, Bouta cachofio, voilà. Ce qui veut dire qu'on va allumer une bûche de bois fruitier, en poirier, en cerisier ou en olivier. Et soit le plus jeune, soit le plus âgé de la famille est en charge de cette tâche. On va l'arroser 3 fois d'un alcool ou d'un vin cuit pour que la bûche se réjouisse. Je trouve que ce mot est beau. Hein. Et on va compter même parfois le nombre d'étincelles en se disant que c'est des petits coups de chance pour l'année qui va venir.
Alors, bûche de Noël, les truffes, si vous voulez bien, Catherine Khodorowski, nous en venons aux douceurs de Noël dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Alors vous mangerez à votre fantaisie des pains de sarrasin, des olives de Turquie, des blinis de Midoff, des liqueurs requiem, où le caviar repose sur son linceul de crème. Vous vous régalerez de trompettes des morts, de morilles plus bistres que la tête d'un mort, de sèches dans la rancre, de truffes en sarcophage, de gibier dans leur sauce aux couleurs de cirage. On servira des vins âpres de vieilles vignes, du chocolat amer, des mûres et des guignes, noirs dans les verres noirs et noirs dans les assiettes. C'est ainsi que sera le festin de Juliette.
Le festin de Juliette, c'est officiel, nous avons faim sur Europe 1.
Ah oui, le caviar qui repose sur son petit linceul de crème, vous imaginez ça. Bon, c'est l'histoire des trois messes basses finalement. Nous étions en Provence avec vous, Catherine Khodorowsky, vous nous parliez de ce concert. Alors, il faut parler des 13 desserts de ces festins provençaux.
Alors, les 13 desserts ont une origine religieuse et chaque ingrédient, chaque composition, qui peut varier en fonction des familles et des villages, ont un symbole. Alors, on pense aux 4 mendiants dont la couleur sombre va rappeler celle de la robe des ordres mendiants, c'est-à-dire les figues sèches pour les franciscains, les amandes pour les carmes, les raisins secs pour les dominicains, les noix pour les augustins. Et puis, il y a 6 fruits, les dattes, la pâte de coing, les poires d'hiver, les mandarines, ou les cédras, les prunes, les melons d'hiver, sans oublier les nougats noirs et blancs, pour évoquer les pénitents noirs et blancs, le blanc mou qui symbolise la douceur, la pureté, le bien, qui est forcément opposé au noir, qui est plus cassant et qui va évoquer l'impur et le mal. Et puis la fougasse, qu'on appelle aussi la pompe à huile, à base d'huile d'olive et de levain. Inutile de vous dire qu'après ces 13 desserts...
On passe à la bûche. Alors parlez-nous de cette bûche. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un grand nombre des traditions dont nous parlons aujourd'hui, j'ai dit un mot tout à l'heure du sapin de Noël, là on va parler de la bûche, toutes ces traditions qui font Noël sont largement héritées de la fin du 19e siècle. Il y a eu, à ce qu'on appelle la belle époque, dans les années 1880 et 90, il y a eu un véritable développement de ces traditions. Et la bûche de Noël, elle date de cette époque-là, des années 1870 en fait.
Absolument, parce qu'au départ c'était une tradition millénaire païenne qui n'était pas religieuse et on faisait flamber cette bûche dans la cheminée pour faire un appel à la lumière.
Mais voilà, bien sûr. C'est la fête de la lumière, Noël, évidemment, hein,
absolument,
par définition.
Absolument, avant tout. Et donc cette bûche, effectivement, on gardait un petit morceau de bois brûlé comme un porte-bonheur pour toute l'année. Et puis effectivement...
Qu'on peignait d'ailleurs, hein, selon les régions,
oui.
C'est assez extraordinaire.
Et donc des pâtissiers, après la guerre de 1870, ont eu envie de remplacer cette traditionnelle bûche de bois par une pâtisserie qui est devenue la bûche pâtissière, c'est-à-dire ce biscuit qu'on va enrouler dans une crème au beurre.
Une crème au beurre qui est quand même un petit peu lourde pour les fins de repas, il faut bien dire ce qui est. Alors, elle peut avoir son charme, hein, évidemment, mais elle n'a plus trop la cote, cette crème pâtissière. Peu à peu, on va remplacer cette crème par autre chose.
Alors, grâce à Gaston Lenôtre, qui a dégraissé et désucré la pâtisserie en France et qui a remplacé cette crème au beurre par une crème allégée, effectivement, mais qu'on va toujours, je parle de la bûche pâtissière traditionnelle, la décorer à la fourchette pour imiter les stries qu'il y a sur une écorce avec un petit Père Noël, une petite scie. Ça, c'est la tradition. Et puis, il faut dire que depuis les années 1990 à peu près, les designers, les grands noms de la mode ont inventé d'autres bûches. On garde toujours une allégorie du bois
mais qui parfois est un peu évanescente, il faut bien dire, hein, l'allégorie.
Absolument, absolument.
Alors, on n'a pas parlé des boissons, Catherine. On n'aura pas trop le temps de s'étendre, mais alors il y a les gens sages dans mon genre qui vont faire festin de thé de Noël. Moi, en ce moment, j'en fais de vraies consommations. Alors, ce sont ces thés qui ont des goûts d'épices, des relents d'agrumes extraordinaires. On a de la bergamote là-dedans, un peu de citron, de la cannelle, un peu de clou de girofle, pas trop, de la cardamome, de la vanille. Et ça donne cette espèce de... Ça embaume toute la pièce et ça peut réconcilier même les plus hésitants avec le thé. J'ai parlé du glühwein tout à l'heure, hein, du vin chaud. Faut en dire un mot quand même. C'est ce qui réchauffe sur les marchés de Noël en ce moment.
Et oui, on revient toujours aux saveurs du pain d'épices.
Ben, c'est ça.
Le thé de Noël, ce sont les mêmes épices que le pain d'épices. Le vin chaud aussi, à boire avec modération. Et puis, il y a aussi la bière de Noël,
qui
a une origine du XVIIe siècle, parce qu'à l'époque, on avait du mal à conserver cette bière fermentée. Et donc, les brasseurs éclusaient toutes leurs réserves d'orge et de houblon pour faire en octobre une bière qu'ils consommaient en décembre et qu'ils offraient à leurs employés ou aux meilleurs clients. Donc, cette bière de Noël qui se conserve maintenant très bien, est rentré dans nos traditions et on y met toujours des épices, un peu de caramel aux épices ou des fruits secs. On revient toujours à ces odeurs, à ces saveurs de pain d'épices.
Alors, ça va vous intéresser, vous qui aimez tant le chocolat, Catherine. C'est une autre Catherine, du reste, qui, par Internet, nous demande si nous connaissons l'histoire des papillotes, ces chocolats enveloppés dans un petit papier avec un petit message à l'intérieur et que l'on mange à Noël. La tradition en est ancienne, nous dit-elle, et elle remonterait à une jolie légende. Aux environs de 1790, un pâtissier-confiseur du nom de Papillot tenait boutique dans le quartier des Terreaux. En s'apercevant de la disparition régulière de certaines friandises, il s'est mis à surveiller son commis et il a découvert que c'était lui qui était auteur des larcins. Il offrait ses douceurs à sa bien-aimée en les enveloppant dans des billets doux qu'il lui écrivait. Ça lui a donné l'idée d'en faire autant pour sa clientèle, en fait.
Jolie tradition des papillotes. De Lyon. Hein,
de Lyon, oui, bien sûr, dans le quartier des Terreaux.
Et Lyon, les Italiens nous ont repris ça avec les baci.
Voilà.
Baci, en italien, c'est le baiser. Et quand on veut faire plaisir à sa belle, on offre des baci qui sont enveloppés dans des petits papiers avec des messages d'amour.
Alors, puisqu'on en est au chocolat, vous nous avez parlé tout à l'heure des petites crottes de Noël, hein, qui viennent des crottes des ânes de Saint-Nicolas, mais il faut que vous nous parliez quand même des truffes, s'il vous plaît, parce que ça manquerait sur une table de festin, de réjouissance en cette fin d'année.
Au XIXe siècle, la truffe était très courante. On en mangeait même quand on n'était pas riche. Aujourd'hui, la truffe est un plat d'exception et on pense d'ailleurs que c'est le réchauffement du climat qui pourrait la rendre plus rare. Alors effectivement, quand on n'a pas toujours les moyens de s'offrir une truffe, même toute petite, eh bien on s'offre une truffe en chocolat, c'est-à-dire une ganache. La ganache, c'est le mélange de la pâte de chocolat et d'une crème fleurette bouillie. Et à la fin du 19e siècle, un pâtissier a inventé la ganache. Si vous lisez votre dictionnaire sur le mot de ganache, on apprend que c'est la partie de la mâchoire du cheval, et que c'est aussi une petite insulte. Vieille ganache, ça veut dire vieille femme
vieille rosse,
pas très
oui.
intelligente.
Mmh.
Et un jour, un apprenti a renversé sur du chocolat cette crème bouillante, on l'a mélangée, on est arrivé à ce mélange onctueux et délicat. Et quand on le fait rouler entre ses deux paumes, et je recommande à nos auditeurs de le faire avec des enfants qui adorent ça, ils en mettent partout, mais quel plaisir.
Bah oui,
hein, on roule ça dans du cacao amer qui simule la terre finalement. Et là aussi, on est dans le symbole, comme la bûche de Noël nous fait penser à la bûche qu'on met dans la cheminée. Eh bien, les truffes en chocolat nous font penser à ce champignon aujourd'hui si rare, mais qui nous régale et qui régale toutes les générations.
C'est ça aussi le plaisir de Noël, c'est de transmettre des traditions, j'allais dire de se vautrer dans les plaisirs d'autrefois, mais qui sont ceux d'aujourd'hui aussi, parce qu'on les raffine, on les développe. Le goût d'aujourd'hui vient généralement suppléer au goût d'autrefois. Merci beaucoup, Catherine Khodorowsky, de nous avoir fait rêver et saliver, hein, vraiment,
ah,
Julien.
Oui.